Notre Père, nous te louons pour ta parole. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci parce qu'il nous parle franchement, avec honnêteté. Et merci pour l'avertissement de ce passage ce matin. Et Seigneur, que nous ayons des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions répondre d'une manière qui te glorifie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. L'indifférence. Qu'en pensez-vous? Est-il bien d'être indifférent dans la vie, de faire preuve d'indifférence? Je pense que ça dépend, n'est-ce pas? Parfois, il est bien de ne pas avoir des opinions trop tranchées sur des sujets peu importants. Faut-il préférer le théâtre ou le cinéma? Je pense que c'est bien d'être indifférent à ce propos. Laquelle est la meilleure sauce, Brésil ou Samouraï? On peut être indifférent face à ces choses, sans problème, sans problème. Mais lorsque nous avons affaire à des sujets plus importants, l'indifférence devient un problème. Face à la pauvreté dans le monde ou dans la société, il n'est pas bien d'être indifférent. Face à la maladie ou la mort, il n'est pas bien d'être indifférent. Et si on réfléchit aux relations, à nos relations avec nos membres de la famille. Il ne convient pas de manifester de l'indifférence envers nos frères et sœurs, envers nos parents ou nos enfants. Ce serait tout à fait inapproprié. Et qu'en est-il de l'indifférence envers Jésus-Christ? L'indifférence envers Jésus-Christ. Dans notre récit aujourd'hui, on voit des gens qui ne s'opposent pas à Jésus de manière violente. Ils sont juste indifférents. Un sens sujet. Dans ce livre, nous avons vu déjà dans l'évangile de Marc, le Fils de Dieu est venu, dans son nom, le roi divin est venu pour instaurer le royaume de Dieu, un nouveau monde sans souffrance, sans mort, sans maladie. Ce roi, c'est Jésus. Et au chapitre 8 et 9, nous avons vu des miracles époustouflants que Jésus a accomplis. La semaine passée, nous avons vu que Jean voulait persuader Jean le Baptiste qu'il était le Fils de Dieu. Et il voulait persuader la foule que Jean était vraiment un prophète venu de Dieu. Mais la foule ne voulait pas écouter Jean ni Jésus. On peut voir ça juste dans les versets précédents, verset 17. Il dit « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamenté. Vous n'avez pas écouté le message de Jean. » En vous appelant à la repentance. Vous n'avez pas écouté le message de Jésus en vous appelant à la foi pour participer au festin de Dieu. Et donc Jésus veut nous enseigner qu'être indifférent à son égard est très dangereux. Être indifférent face à Jésus est très dangereux. Il est urgent, dit Jésus, de se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Et nous le verrons dans ce passage à travers les trois propos de Jésus. Nous voyons d'abord le reproche que fait Jésus, verset 20, relisons. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus a fait beaucoup de miracles très impressionnants. Si vous avez la Bible devant vous, mais on va ouvrir au chapitre 8 et 9, juste pour voir les sous-titres, rien que les sous-titres nous montrent ce que Jésus a fait. Des choses que seul Dieu peut faire. On commence au chapitre 8, on voit qu'il a guéri un lépreux. Il a rendu pur l'impur. Il a guéri le serviteur d'un centenier, même s'il se trouvait loin du serviteur. Il a guéri. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Ensuite, il a apaisé une tempête. Avec juste ses paroles, il a guéri deux démoniaques, il a la puissance sur le mal dans ce monde. On continue au chapitre 9, il a guéri un paralytique, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Et ensuite, il a guéri une femme, il a même ressuscité quelqu'un qui était mort. C'est des choses que seul Dieu peut faire. Et tout cela a eu lieu dans les villes de Bethsaïda, Chorazine, Capernaum, dans la région de Galilée. Imaginons que vous étiez un habitant de cette région. L'homme aveugle était tous les jours devant la porte du marché, en train de demander de l'argent, parce qu'il ne pouvait pas travailler. Et puis un jour, après avoir rencontré un homme qui s'appelle Jésus, il voit. Et il a commencé à travailler dans le marché. La femme atteinte de la perte de sang était l'une de vos voisins. Elle était en congé de maladie pendant 12 ans. Et puis, après avoir rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus, elle est guérie. Et elle commence à travailler de nouveau. Peut-être la fille qui est morte était dans ta classe à l'école. Vous étiez aux funérailles. Et puis Jésus l'a ressuscitée. C'est extraordinaire. Vous avez vu des foules de gens venir voir Jésus avec leur maladie et leurs problèmes et repartir guéris. Ces signes, ces miracles sont la preuve que le royaume de Dieu est proche. Parce que le roi est là. Jésus le roi est là. Jésus a donné aux habitants de cette région un aperçu de son royaume. Et donc si le royaume de Dieu est proche, il est normal qu'on se soumette au roi Jésus. Et on se tourne vers lui pour accepter son secours, pour pouvoir accéder à son nouveau royaume. C'était le message de Jean-Baptiste, c'est le message de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais ses habitants, dit Jésus, ne se sont pas repentis. C'est ça le thème de ce passage. Mais de quoi s'agit-il la repentance? S'il fallait expliquer ça à votre voisin, là maintenant, c'est quoi la repentance? On ne va pas faire ça, on ne va pas se déjeuner en faisant cela. Mais c'est quoi la repentance? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais il faut dire que ce n'est pas la pénitence. La pénitence. C'est ce qu'on a dans l'Église catholique, des œuvres que nous devons accomplir pour gagner la faveur de Dieu. Peut-être on pense que c'est ça ce que Jésus veut que nous fassions. On voit qu'on a mal fait dans notre vie et du coup on doit compenser ça avec un peu plus de bien. Mais ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le fait de se sentir triste à cause de ses fautes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre tristes. En voyant nos fautes, peut-être nous sommes déçus avec nous-mêmes. Ça vous est arrivé déjà d'avoir dit quelque chose, et puis vous dites, « Mince alors, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je suis triste à propos de cela. » Mais ça, c'est être triste par nous-mêmes. Nous avons déçu, nos exigences personnelles. Mais ce n'est pas ça la repentance non plus. C'est quoi la repentance? C'est de faire demi-tour dans toute sa vie, c'est changer l'orientation fondamentale de votre vie. Peut-être je vais appeler Jack devant. Ici, viens ici, Jack. C'est pas une blague. Viens. Donc, imaginons, Jack, il est en train de marcher ici. Il n'est pas à moto comme le monsieur à l'extérieur, mais il est en train de marcher. Et il est en train de marcher vers là. Donc ici, Dieu. On imagine que Dieu est là. Jacques était en train de vivre sa vie tranquillement, comme il le veut, sans Dieu. Voilà, c'est très bien tout ce que Dieu lui a donné, mais pour le moment, ça ne l'intéresse pas trop. Et donc, c'est quoi la repentance? C'est pas juste de dire, « Ouh, désolé Dieu, je t'ai offensé », et puis de continuer à marcher comme avant, hein? Comme ça. Tu peux marcher, tu vois, là, merci. C'est pas ça la repentance. Non, il doit se rendre compte qu'il a vécu sa vie contre Dieu, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire demi-tour. Tu peux faire ça. Voilà. Donc, il va faire demi-tour, mais il va vivre toute sa vie pour Dieu et non pas pour lui-même. Merci, Jack. Tu peux. C'est la même chose si on va, peut-être, on voit le soleil, on se dit, mais on va aller à la côte belge, comme tous les autres à Bruxelles. Ils sont là. Mais on prend le ring dans le mauvais sens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire demi-tour. On sort, on reprend. Et on va dans l'autre sens. C'est ce que nous devons faire dans la vie. Nous devons avouer que nous nous sommes trompés dans notre façon de vivre tout au long de notre vie. C'est reconnaître que nous avons choisi de vivre dans le monde que Dieu a créé, mais sans nous soumettre à lui. La personne qui se repent dit, je reconnais que j'ai vécu sans toi, Dieu, et pour moi dans ma vie. Dorénavant, je veux vivre avec Jésus comme mon roi. C'est ça. La repentance. Et les gens qui ont vu les miracles de Jésus ne se sont pas repentis, même si c'était la chose logique à faire. Mais dans un sens, on comprend pourquoi ils ne se sont pas repentis. Se repentir, c'est énorme. C'est pas juste donner à Dieu une heure le dimanche matin. C'est pas juste donner à Dieu un petit peu d'argent à l'offrande, à la sortie, ou prier de temps en temps. C'est avouer qu'on s'est trempé dans notre manière de vivre tout au long de notre vie. C'est énorme, ça. C'est pas facile à faire. C'est pas facile à dire à Dieu, je veux que tu prennes le volant dans ma vie. Je veux que ce soit toi qui me dis ce qui est bien et mal dans ta parole, la Bible, et non plus moi qui décide cela. C'est une décision, comprends, qui change tout. Et donc, dans un sens, on peut comprendre pourquoi les habitants ne se sont pas repentis. Et peut-être c'est la même chose pour vous. Vous avez entendu le message de Jésus mort et ressuscité pour vos péchés, mais vous ne vous voulez pas encore croire en lui. Vous pensez que c'est trop coûteux, ça va changer trop de choses chez vous. Vous êtes habitué à vivre pour vous-même. Oui, la repentance, c'est une décision coûteuse, mais en même temps, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Se repentir et vivre avec Dieu comme son roi, c'est comme vivre selon les instructions du Créateur. Imaginons à la maison, vous avez une friteuse. Je ne sais pas si vous avez une friteuse à la maison. Certaines personnes, oui, non, non, les Français, non, pas. Mais imaginons qu'on a la friteuse et on décide d'utiliser la friteuse pour faire de la glace. On va mettre voilà, la crème dedans, on va mettre du lait, peut-être des fraises, on va bien les couper, les mettre dedans, et puis allumer, et ouh, ça va pas bien aller. Non, c'est mieux de faire la chose pour laquelle c'était conçu, de suivre les instructions, d'en faire des frites, des bonnes frites belges à la maison. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est mieux de vivre selon les instructions du Créateur. Au lieu d'aller à l'encontre de cela, en essayant de deviner comment nous devrions vivre ici-bas, c'est beaucoup mieux de suivre comment Dieu nous dit de vivre. C'est ça la repentance. Mais les gens continuent à rester indifférents face à Jésus. Jésus leur adresse des reproches. Vous auriez dû vous repentir. Ce que Jésus veut, c'est notre repentance. Toute notre vie pour lui. Et pour enfoncer le clou, il fait une comparaison avec les villes dans l'Ancien Testament que nous avons déjà vues. C'est la deuxième chose que nous voyons, la comparaison que fait Jésus. La comparaison que fait Jésus, versets 21 et 23. C'est comme s'il disait, vous n'avez aucune idée à quel point vous étiez privilégié d'avoir vu les miracles que j'ai accomplis. Si d'autres avaient été à votre place, ils se seraient vite repentis. Au verset 21, il dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si des miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le cendre. » Chorazine et Bethsaïda sont deux villages par lesquels Jésus est passé en faisant des miracles. Et Jésus leur dit « Malheur ». Il fait la comparaison avec Tyr et Sidon, ces villes arrogantes dans l'Ancien Testament. On a lu en Ézéchiel, le jugement de Dieu est tombé sur ces villes. C'était deux villes connues pour leur richesse financière, pour leurs exploits sur les marchés financiers. Tout le monde passait par Tyr et Sidon pour aller acheter des affaires. C'était peut-être comme la Chine de l'époque, fabriquée à Tyr et Sidon, surtout les vêtements. Peut-être c'était comme l'Amazon de l'époque, ou bien le Wall Street, la Défense à Paris, la cité de Londres. Et Tyr et Sidon se sont devenus orgueilleuse, pensant qu'elle pouvait tout faire, n'avait pas besoin de Dieu. Mais les habitants ne connaissaient pas le Dieu de la Bible, mais ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Dieu a jugé ces villes pour leur orgueil, pour leur péché. Et Jésus dit que ces villes païennes, orgueilleuses, se seraient repenties si elles avaient vu les miracles accomplis à Chorazine et à Bethsaïda. Au verset 23, il fait la comparaison entre Capernaum et la ville de Sodome. Capernaum était là où Jésus a logé durant son séjour dans la région, le meilleur endroit pour voir les miracles de Jésus. Mais les habitants n'ont pas voulu se repentir. Cette ville pensait qu'elle serait élevée jusqu'au ciel, verset 23. Elle pensait être du bon côté spirituel, proche de Dieu. Mais non, elle sera abaissée. Jusqu'au séjour des morts, la ville sera jugée. Car si les miracles qui avaient été accomplis là-bas avaient été à Sodome, les habitants de cette ville se seraient repentis. Sodome était connu dans l'Ancien Testament pour son immoralité sexuelle. C'était peut-être comme l'Amsterdam d'aujourd'hui, où se concentre la prostitution, ou bien le quartier gay d'une ville comme Bruxelles. Une ville remplie d'immoralité. Et Jésus dit, les habitants se seraient repentis en un clin d'œil s'ils avaient vu les miracles que j'ai accomplis. Et du coup, Sodome n'aurait pas été détruite par le feu et le soufre dans le jugement de Dieu, comme c'était le cas. Mais pourquoi Jésus fait-il cette comparaison? Il le fait pour montrer à quel point les habitants de la Galilée sont coupables, inexcusables devant Dieu. Même les villes immorales, orgueilleuses, païennes de l'Ancien Testament se seraient repenties si elles avaient eu les mêmes privilèges. Et ici, les villes juives, qui savaient bien que le Messie devait venir, se sont montrées indifférentes face à lui. Elles ne se sont pas repenties. Cela nous montre que le fait de croire en Jésus n'est pas une question de preuve, finalement. La ville de Galilée avait toutes les preuves imaginables de l'existence de Dieu, de l'identité de Jésus tant que Messie. Et ils ont refusé de croire en lui. Mais si d'autres avaient accès aux mêmes preuves, ils auraient cru. Et peut-être vous pensez, mais je dois avoir plus de preuves avant de croire en Jésus. Je ne suis pas encore certain si je crois ce que la Bible me dit. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, M. Strobel, Lee Strobel, c'était un journaliste athée, renommé. Il voulait faire des recherches pour démontrer que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. C'est ça ce qu'il voulait faire à la base. Mais en faisant des recherches, il a plutôt été convaincu que Jésus était le Fils de Dieu. Et donc, il a dû changer son projet, changer le livre qu'il a fait, et il est devenu chrétien. Il a placé sa foi en Jésus. Mais à un moment donné, il y a un film qui est sorti récemment, vous pouvez chercher cela. À un moment donné, je pense que c'est son épouse qui lui demande « Combien de preuves te suffit pour pouvoir croire en Jésus ? Est-ce que tu as besoin vraiment de tout savoir avant de placer ta confiance en Jésus ?» Et c'est vrai, on n'a pas besoin de toutes les preuves. Les preuves, il y en a en abondance dans la Bible. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais ne vous cachez pas derrière ces questions pour ne pas vous repentir. C'est ça ce qu'ils ont fait à Chorazin, à Bethsaïda. Malgré toutes les preuves, ils ont dit « ça ne nous suffit pas, on veut plus de preuves, on ne va pas se repentir ». Jésus nous dit « ce n'est pas une question de preuves, c'est une question « est-ce que nous sommes prêts ?» à changer radicalement dans notre vie, changer d'orientation fondamentale dans notre vie. Et donc, il termine avec un avertissement au verset 22 et 24, car il dit que les villes de Galilée seront traitées plus sévèrement au jour du jugement que les villes de Sodome, Tyr et de Sidon. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ici, Jésus parle deux fois du jour de jugement. Ce n'est pas très à la mode de croire encore au jour du jugement. Nous pensons qu'il s'agit d'une idée médiévale que l'Église utilisait pour contrôler le peuple. Mais Jésus a beaucoup enseigné par rapport à ce jour de jugement. Et en fait, le jour du jugement est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. S'il n'y avait pas de jugement après cette vie, il n'y aurait jamais de justice. Combien de crimes sont-ils commis sans que l'auteur soit trouvé et puni? Combien de peines de prison ne sont pas exécutées dans leur entièreté? C'est une très bonne chose qu'il y a un jugement, qu'il y aura un jugement un jour. Toute personne qui a commis le mal devra rendre des comptes à Dieu et sera punie. Et le jugement de Dieu prouve aussi que notre vie a un sens. Le jugement de Dieu nous donne une dignité profonde. Ça veut dire que chaque acte que nous posons compte. Si Dieu va passer en revue tout ce que nous avons fait, dit et pensé, ça veut dire que chaque chose que nous faisons compte. Et ça nous élève en dignité. Notre vie a un sens. Si vous êtes à l'école et vous faites un devoir, la chose la plus décourageante, c'est que le prof, si le prof ne prend pas le temps de corriger le cahier, c'est comme si le travail était sans but, finalement. Et c'est la même chose pour nous. S'il n'y avait pas de jugement dernier, notre vie n'aurait pas de sens. Nous sommes un cahier non corrigé, en quelque sorte. Le jugement de Dieu est une excellente nouvelle. Et ce que Jésus dit ici est aussi une bonne nouvelle. Il dit que Dieu prend en compte combien d'informations nous avons entendues le concernant lors du jugement. Il ne va pas juger quelqu'un qui a entendu très peu sur Jésus selon les mêmes critères que quelqu'un qui en a entendu beaucoup. Dieu est juste. Il nous juge selon nos actes. Il nous juge selon la connaissance que nous avons acquise à son sujet. Et c'est pour cela que Sodome, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement car elles n'ont pas eu les mêmes privilèges que les villes en Galilée de l'époque de Jésus. Il ne faut pas se bercer d'illusions. L'humanité tout entière, dit la Bible, est coupable devant Dieu. Il mérite la condamnation éternelle en enfer. Mais la Bible affirme qu'en enfer, il y aura des degrés de punition. Certains seront punis plus sévèrement car leur crime était plus grave. Nous pensons peut-être à Hitler ou Dutroux. Mais certains seront punis plus sévèrement car ils ont entendu clairement parler de Jésus sans toutefois se repentir. Tandis que d'autres en connaissaient beaucoup moins sur Jésus. Ils restent coupables mais seront punis moins sévèrement. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez cela. On va voir en Luc pour voir un autre passage qui parle de cela. Luc 12, si vous pouvez voir cela. Si vous avez une Bible autour de vous, ce sera utile. Luc 12, parce que Jésus parle du même sujet, du jugement, et la différence de sévérité dans son jugement. Il parle de son retour ici. Et il parle de deux personnes. Et on va voir ce qu'il en dit. Luc 12, versets 47 et 48. Luc 12, 47 et 48. Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc on voit clairement que tous les deux, ils ont fait des choses dignes de châtiment. Et c'est vrai pour chaque être humain. Mais il y a un qui connaissait clairement la volonté du maître, qui ne l'a pas fait, il sera puni plus sévèrement. L'autre connaissait moins bien, il sera puni moins sévèrement. Ce sera agréable pour personne, l'enfer. Agréable pour personne. Mais nous devons savoir que ceux qui ont beaucoup entendu seront punis plus sévèrement que d'autres. Parce qu'ils n'ont pas d'excuses. Jésus reproche les villes de Galilée qui ne se sont pas repenties malgré les miracles qui s'y sont accomplis. Il fait la comparaison avec les villes immorales dans l'Ancien Testament. Il dit que si vous êtes privilégié, cela vous rend encore plus coupable. Et les gens qui ont beaucoup entendu, qui ne se repentent pas, seront jugés plus sévèrement. Mais comment devrions-nous répondre à un tel passage? Peut-être on se dit, oulala, c'est dur ça. Mais si nous comprenons ce que Jésus est en train de nous dire, nous voyons que c'est une démarche d'amour de sa part. Il aurait pu ne rien dire avant le jour où nous serions jugés. Mais il a préféré nous avertir par amour du danger qui se présente à nous. Et donc, si nous sommes là, nous n'avons pas encore tourné vers Jésus. Il faut se tourner vers lui. L'appel est là dans le passage. L'avertissement et l'appel. Et si vous voyez le verset 28 en Matthieu, à 11, verset 28, nous allons le voir la semaine prochaine. On a l'appel qui vient de Jésus, venez, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Si on se repent, si on se tourne vers Jésus, Jésus nous donne du repos. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Mais si vous voulez en savoir plus, mais parlez à quelqu'un après, on serait ravis de vous parler de comment on peut placer sa confiance en Jésus, comment se tourner vers Jésus pour être pardonné. Ou venez au parcours découverte par ce mardi, mais mardi en 8, nous allons parler de pourquoi et comment se tourner vers Jésus. Mais si nous avons compris ce message, si nous avons placé notre confiance en Jésus, est-ce que nous voyons l'urgence de la situation pour ceux qui nous entourent? Est-ce que nous prions pour d'autres personnes, sachant que le jugement de Dieu est réel et imminent? Ou est-ce que nous sommes un peu habitués à ce que les gens rejettent Jésus? Et nous pensons que ce n'est pas si grave que cela, finalement. Il est possible qu'on a écouté cette prédication en pensant, voilà, fou, moi je ne suis pas comme Corazine, Bethsaida, ou moi je me suis repenti, c'est bien, fou, bien pour moi, j'ai bien fait. Et on commence à se taper dans le dos un petit peu. On se félicite en disant, au moins je ne suis pas comme eux. Mais quelle erreur de faire cela. Le passage que nous envoie prochainement en Matthieu montre que c'est tout, c'est l'œuvre de Dieu. Si nous sommes capables de comprendre et croire en Dieu, en Jésus, c'est lui qui nous a poussés à le faire. Et donc nous devons lui le remercier pour cela. Si nous nous sommes repentis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle grâce qu'il a eu pitié de nous. Et l'avertissement est là. Si nous avons entendu parler de Jésus, lui, le roi, le sauveur qui est venu, mourir sur la croix pour nous offrir la vie éternelle, il nous appelle tous à changer d'attitude, à changer l'orientation fondamentale de notre vie pour nous confier en lui avant qu'il ne soit trop tard. Prions ensemble pour terminer. Notre Père, nous voyons dans ce passage que ton jugement arrivera. Nous savons que c'est une bonne nouvelle, que tu vas juger le monde. Mais nous savons aussi que nous devons nous repentir avant ce jour-là pour être sauvés de ton jugement. Nous devons placer notre confiance dans la mort de ton Fils. Prions pour toute personne dans cette salle qui n'a pas encore pris le pas de se repentir. Seigneur, que tu donnes à ces personnes de se tourner vers toi avant qu'il ne soit trop tard. Et pour nous aussi, nous avons déjà pris ce pas, nous te remercions parce que c'est par ta grâce et ta grâce seule que nous avons pu faire cela. Merci parce que nous sommes en route vers la nouvelle création, vers un monde nouveau et parfait. Et donne-nous de voir l'urgence, la situation autour de nous, de prier pour les autres, d'annoncer la nouvelle du jugement et le besoin de se repentir avant qu'il soit trop tard. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.